BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech & Co Business. Au sommaire aujourd'hui, on va beaucoup parler de cybersécurité. Aujourd'hui, d'ailleurs, tiens, un large language model de l'IA générative au service de la cybersécurité. Ce sera notre premier invité dans un instant. On enchaînera ensuite sur notre baromètre avec Optimis, hein, savoir où on en est aujourd'hui des profils les plus demandés. Eh bien, c'est le cloud, la data. Ce sont les profils les plus demandés par les entreprises aujourd'hui. On parlera des budgets cyber qui ne sont toujours pas au rendez-vous. On verra aussi la maturité des entreprises dans le domaine de la cyber. C'est une étude Wavestone qui l'a fait auprès d'un large panel d'entreprises. On verra qu'il y a encore beaucoup à faire. Et puis, notre débrief de la cyber aujourd'hui avec nos trois experts. On va parler de la cyber pendant les JO. On va parler de la cyber sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, on a tout un tas de sujets à partager ensemble. Restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Et on démarre avec notre invité Nicolas Arpajon. Bonjour Nicolas.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous, vice-président DeadMind Partners, donc cabinet spécialisé dans la data, l'IA, enfin voilà, le conseil aux entreprises dans tous ces domaines. Et justement, aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui se lancent dans des projets d'IA générative. Et le volet sécurité, on l'oublie parfois un peu. Et justement, c'est ce sur quoi vous avez travaillé avec un LLM spécialisé cybersécurité. C'est quoi au départ l'idée de ce LLM?
Alors, l'idée d'un LLM, c'est la capacité de fournir des informations de manière opérationnelle, des informations en cybersécurité, aussi bien à des spécialistes, c'est-à-dire des praticiens de la cybersécurité dans les entreprises. On sait qu'ils sont en nombre limité, ils sont chargés, surchargés de travail. Et donc, nous avons créé cet outil à partir d'un LLM que nous avons éduqué, en fait, un peu comme quelqu'un à qui on apprendrait à parler. Ensuite, on l'a spécialisé sur la cybersécurité avec un apprentissage, précisément, dans tout l'univers, le vocabulaire, les termes techniques, les acronymes de la cybersécurité, et faire en sorte, précisément, qu'il puisse apporter des réponses techniques, juridiques à toute personne professionnelle de la cyber ou fonction métier, c'est-à-dire salarié dans l'entreprise, dès lors qu'il se poserait une question sous un format fluide et accessible.
Ce qui est l'idée de cette IA générative qui puisse être accessible en langage naturel. Ça veut dire, tiens, on va prendre mon exemple. Imaginons, je suis soit un métier, soit une partie, je m'occupe de la sécurité d'un groupe de médias. Comment je vais faire? Parce que les datas, ce sont mes datas.
Bien
sont,
sûr. Comment ça se passe? Alors, première chose, on fait en sorte que la compétence, la connaissance soit transmise à l'entreprise utilisatrice. Je m'explique, on est dans l'anti-modèle de j'achète une solution sur étagère, j'appuie sur un bouton et un peu le syndrome de la boîte noire. En fait, nous, on a créé un protocole, on a effectivement fait une méthodologie qui est donc MindHead, et on a fait en sorte que toute entreprise, quel que soit son domaine d'activité, on va pouvoir intégrer ses données, son environnement, ses spécificités. C'est un protocole qui va durer de 3 à 9 mois, et là, on s'engage à faire en sorte qu'il y ait de la personnalisation, de l'adaptation, précisément. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises ne sont pas concernées par les mêmes réglementations, les mêmes exigences. Il y a des seuils, il y a des zones géographiques, il y a des spécificités juridiques et opérationnelles. Donc on a fait en sorte que la méthodologie qu'on a élaborée permet à toute entreprise, effectivement, de construire cette adaptation très personnalisée. Et surtout, c'est un moyen pour les équipes de l'entreprise de s'approprier l'expertise en IA, qui est souvent vue comme une compétitrice, une rivale. Et là, on voit qu'ils gagnent en compétence sur le comment fonctionne une IA générative.
Et alors, est-ce que ça peut être, je reste dans mon exemple des médias, on fait souvent des émissions délocalisées, ça va être, je vais poser ma question, voilà, je vais faire une délocalisation dans telle région ou dans tel pays, quels sont les points sur lesquels je dois insister en termes de VPN, en
exactement,
termes d'accès,
c'est tout à fait ça, des questions très simples, est-ce que je dois utiliser, qu'est-ce qu'une communication sécurisée, quelles sont les modalités de protection, éventuellement une question juridique. On sait que la réglementation est très structurante dans l'univers de la cybersécurité. Là, évidemment, l'occasion, c'est d'avoir des réponses qui vont permettre également de sourcer les informations. C'est-à-dire qu'on peut avoir les éléments de texte, les sources opérationnelles qui précisément permettent de documenter, de bien comprendre. On n'est pas uniquement dans la délivrance d'un message péremptoire qui serait évidemment assez limité en termes pédagogiques.
Comment vous avez travaillé pour procéder, pour entraîner le modèle?
Alors, en fait, depuis 2000, DeadMind Partners est donc un cabinet français. Depuis 2019, on a créé une entité dédiée à l'IA. D'accord. Avec, j'allais dire, des têtes bien faites, c'est-à-dire des polytechniciens, des centraliens, qui ont proposé justement des modèles pour précisément arriver à une méthodologie. Et ça fait 2 ans qu'on a fait en sorte de d'éduquer, d'élaborer. Pourquoi ? Parce que se pose quand même la question, alors quand on parle de souveraineté, c'est aussi une autonomie stratégique des entreprises, oui, à comprendre une technologie, à éviter d'exfiltrer leurs informations dans des prestations qui seraient en tout cas incertaines quant à la confidentialité des informations. Et donc on a fait en sorte de bâtir, on a perdu du temps, on a, pourquoi, oui, parce que on a tâtonné, oui, on a appris.
J'imagine, bah, comme tout IA, il y a eu des hallucinations.
Exactement. Et c'est là où on a fait en sorte précisément de le spécialiser, puisque c'est MindEd Cyber, et notre méthodologie, elle a la particularité de pouvoir ensuite se dupliquer à d'autres environnements. On a travaillé par exemple sur des solutions RH, ressources humaines, notamment sur l'identification des causes de démission de certains collaborateurs sensibles. On travaille sur des problématiques de conformité dans certaines entreprises. On parle d'homologation, c'est-à-dire on a un corpus de référence, on veut savoir si le produit qu'on va mettre sur le marché, est-ce qu'il est totalement conforme, partiellement conforme.
Sur la partie RH, ça pourrait être, tiens, j'ai une équipe de 50 personnes, est-ce qu'ils ont des activités, enfin, est-ce qu'en sur 3 ans, est-ce qu'ils ont tous un peu bougé pour voir si...
Effectivement, alors c'est surtout, en tout cas, c'est l'idée, c'est d'identifier les personnes ou les profils qui pourraient être amenés à quitter leur fonction, et surtout de documenter les motifs. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un moyen d'aider les services ressources humaines à activer les différents leviers. Alors, la rémunération, c'est quand on pense au prime abord, mais il peut y avoir des affectations géographiques, il peut y avoir des domaines de spécialité, il y a plein de variables. Et donc, c'est vrai qu'on s'est aperçu que c'était un outil de documentation extrêmement efficace pour les équipes ressources humaines.
Comment les entreprises, comment vous rémunérez par rapport à ça sur les entreprises ? Alors, vous avez travaillé avec des modèles existants ou alors c'est celui développé,
On a travaillé à l'origine sur Mistral, de manière à. Et ensuite, c'est l'avantage de l'open source, c'est-à-dire faire en sorte que l'entreprise utilisatrice ait la main, elle peut comprendre les tenants et aboutissants de cette IA, ce qui est très important également en termes de conformité. Vous savez qu'il y a l'IA Act, cette réglementation qui demande des comptes ou demandera de plus en plus des comptes sur l'explicabilité des systèmes d'IA. Avec ce dispositif, l'entreprise est extrêmement à l'aise pour pouvoir documenter, déjà pour elle-même, pour savoir ce qu'elle utilise comme outillage, précisément pour limiter, restreindre les risques d'hallucination, et puis surtout monter en compétences elle-même. Nous, notre conviction, plus on aura des utilisateurs qui comprendront les mécanismes de l'IA, plus on aura des usages vertueux et surtout profitables à toute l'organisation.
Et justement, on parle profitable, profit, la rémunération, c'est quand on paye au token, on paye...
Alors non, l'idée c'est d'arriver, en fait, on reste dans notre métier de prestateur de conseil, parce que on part de l'idée que il y aura forcément un accompagnement. Pourquoi ? Parce que le cadre juridique, technique évolue, le périmètre va évoluer, et donc on accompagne nos clients, c'est pas de les laisser en tout cas seuls avec un logiciel acheté sur étagère, c'est bien un processus d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que cette IA, elle est vivante et elle est d'autant plus pertinente qu'elle sera précisément comprise par les métiers qui se l'approprieront et l'utiliseront dans leur opération quotidienne. Donc l'idée avec ce MindEd Cyber, dans un premier temps avec le domaine cyber, de cette solution, et on va le décliner ensuite avec des domaines de spécialité. Mais c'est vrai que de 3 à 9 mois, on est capable dans des organisations de faire en sorte qu'ils aient un outil opérationnel à leur main et également fiable d'un point de vue de la sécurité, parce que nous sommes également auditeurs PASI qualifiés par l'Agence Nationale de Sécurité, et donc on s'assure également de son intégrité numérique.
Et c'est français-anglais ou c'est que français ?
Alors non, absolument. Alors ça, c'est l'avantage des LLM, le monde de la langue est moins un problème, puisque évidemment on peut être dans des versions multilingues de manière assez opérationnelle.
Eh bien merci Nicolas Arpagian. Donc un LLM spécialisé sur la cybersécurité, ça s'appelle MindEd.cyber, ça vient de chez Endmind Partners, voilà, je cherchais la suite. Merci Nicolas Arpagian, vous restez avec nous. On vous quitte un moment, mais on va vous retrouver dans la deuxième partie de l'émission, parce qu'on va faire un débrief justement, partir sur votre qualité d'expert dans cet univers de la cyber. On va faire un débrief un peu de toutes ces actualités cyber qui jalonnent notre quotidien, et on analysera tout ça dans un instant. Allez, on marque une courte pause, on va parler des métiers. Tiens, figurez-vous qu'aujourd'hui, on recherche de plus en plus, tiens, comme par hasard, des profils cloud et data. C'est le cas de notre baromètre Optimis. C'est tout de suite.
BFM Business Partenaire. BFM Business, Tech & Co Business, la chronique expert.
Allez, on démarre avec notre chronique et notre partenariat avec la société Optimis. Alix Mirchand, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Directeur marketing d'Optimis. Et puis avec nous, Vanessa Ranaï-Voa-Risson. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vanessa, DSI de Colas Digital Solutions. Et on va justement, alors c'est un rendez-vous, hein, vous avez certainement pris l'habitude avec Optimis, qui est une plateforme qui met en lien les tous ceux qui, toutes les entreprises qui recherchent des développeurs, des chefs de projet dans tous les domaines, architecture, cloud, développement. Et puis de l'autre, toutes les ESN, tous les freelances qui veulent trouver ces mêmes contrats. Et donc ça nous permet de voir un peu de faire ce baromètre et de prendre la température un peu du marché. Alix, là, quand on regarde les chiffres de ce deuxième trimestre 2024, le marché se retend à nouveau, mais quand même il y a une baisse de la part de la demande des entreprises aussi. Hein.
Ouais, effectivement, en fait, la baisse, on l'a vu le mois dernier, il y a une baisse assez forte de 23% sur la fin du trimestre. Là, sur la fin du semestre, la baisse est encore là de 13%. Alors, on constate quand même un ralentissement de la baisse de la demande. Mm-hmm. On espère qu'au deuxième semestre, ça va s'inverser parce que la baisse se ralentit. Mais on est toujours quand même sur un marché en baisse de demande.
Donc, ça veut dire des entreprises qui, pour l'instant, lancent moins de projets.
Moins de projets. Alors, ça se ralentit quand même, la baisse. Donc, mm-hmm. on espère que ça va s'inverser au deuxième semestre quand même. Mais parallèlement, on constate aussi toujours une baisse de la disponibilité, en fait.
Oui.
Des consultants. Alors l'explication, on essaie de la trouver, c'est aussi que les projets sont de plus en plus complexes et les profils actuels ne correspondent pas forcément en fait aux nouveaux besoins, aux nouvelles technologies.
Et on va y revenir dessus parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de profils cloud, data qui sont demandés.
Tout à fait.
Et j'avais oublié de le dire parce que vous avez le petit coq rouge sur votre veste. Et bien Optimis fait partie maintenant du French Tech 120.
French Tech 120, on est très fiers effectivement d'arborer voilà. Maintenant le coq rouge.
Le coq rouge de toutes les entreprises qui réussissent aujourd'hui dans la French Tech. Alors Vanessa Ranaï-Voa-Risson, vous êtes donc DSI de Colas Digital. Et dites-nous, donc vous êtes dans la conception, la réalisation de la maintenance des bâtiments. Aujourd'hui, voilà, avant de parler d'IT, mais les liens, quels sont les grands projets un peu sur lesquels vous travaillez aujourd'hui ?
Alors, Colas, c'est un acteur mondial de la construction et mm-hmm. notamment de la maintenance et de l'entretien des infrastructures de transport pour une mobilité durable. Et donc, l'actualité, si on regarde au niveau de la transformation digitale, c'est il est au cœur en fait de la stratégie de Colas et ça va se concrétiser de plusieurs façons. La première, d'abord, c'est que on souhaite en fait déjà équiper nos collaborateurs, nos 35 000 collaborateurs connectés oui. sur les 65 000 de solutions digitales qui sont basées en fait sur ces nouvelles techno que l'on a mentionnées, le cloud.
Oui, on avait récompensé une année sur la tablette.
Exactement, chantier 360 exactement. Qui permet aux chefs de chantier de gérer en fait l'ensemble de leur chantier.
C'est grand plan.
Voilà, de A à Z. Il y a également en fait le développement d'offres de services pour les collectivités mm-hmm. infracaires, notamment qui permet en fait une meilleure gestion du patrimoine routier pour les collectivités. Et ça de manière assez simple. Voilà.
En tant que Parisien, on sait tout ce que c'est que le nid de poule sur la route et tout ça.
Exactement.
On aimerait bien signaler un peu plus facilement.
On fait usage en fait des nouvelles techno telles que l'intelligence artificielle pour aller détecter automatiquement via des algorithmes mm-hmm. ces défauts de route et permettre en fait aux collectivités de mieux gérer leurs travaux de manière plus optimisée à la fois sur les coûts. L'impact environnemental des travaux mmh. et un meilleur bénéfice aux usagers.
Et aujourd'hui, alors la DSI de Colas, c'est combien de personnes aujourd'hui ?
Alors la DSI globale monde, c'est 700 informaticiens
d'accord.
répartis sur 50 pays.
Et là aujourd'hui, on va regarder un peu les profils que vous recherchez. Alors, vous êtes beaucoup dans les dossiers. Alors évidemment tout ce qui est cyber, hein, ça je crois que c'est la priorité pour tout le monde.
Oui.
Transfo digital, alors dites-nous un peu les profils que vous recherchez vous particulièrement.
Alors principalement aujourd'hui, on va aller mettre l'accent sur la data, l'intelligence artificielle avec oui. des data scientists mm-hmm. Également des architectes cloud. On va de plus en plus en fait vers ce type de techno qui permettent d'accélérer en fait le développement des applications aussi sur des architectes techniques parce qu'on a un SI en fait de plus en plus complexe
oui.
et il va falloir opérer.
En plus, il y a eu des rachats
exactement tout donc c'est sur ce type de profil aujourd'hui que nous sommes plutôt en fait focalisés.
Et c'est là, Alix, où il y a beaucoup de tensions, hein, justement, hein, les architectes, le cloud, la cyber.
Ouais, effectivement, en fait, on constate une baisse assez générale, mais pas surtout, effectivement, justement, sur des profils infra, cloud, data, une hausse de 4%, malgré la baisse générale. Donc, effectivement, il y a des vases communicants, en fait. Hein, une baisse importante aussi de la demande de développeurs. Mm-hmm. une baisse importante.
J'ai vu ça, c'était moins 30%
moins 30%
de
effectivement sur le.
Ça, c'est quoi? C'est un effet IA génératif, quelque chose?
Alors, on pense effectivement parce que début d'année, il y a eu de la demande. Donc, il y a des vastes communicants dans l'IT. Les projets, en fait, ont une chronologie qui fait que effectivement aujourd'hui les développeurs en ont moins besoin, on a moins besoin de production, exploitation, infrastructure. Par contre sur la gestion de la donnée, typiquement sur une techno MySQL, la demande est en très forte hausse, plus 30% sur la fin du trimestre. Donc c'est des sujets éminemment liés à la data et au cloud.
Et j'imagine, Vanessa, chez vous, chez Colas Digital Solutions, le lien aussi autour de cette data, c'est justement faire le lien entre la DSI, les métiers, parce que tout le monde...
Exactement,
cette data
parce qu'une stratégie, en fait, digitale, elle s'opère entre la DSI et avec les métiers, donc que ce soit les travaux, les carrières, les équipements et les autres. Donc,
il faut mettre
plateforme
très en amont en place des solutions
pour solutions,
faire remonter cette data.
Voilà, collecter la data, la consolider, la nettoyer pour mieux en fait l'exploiter et offrir les services en fait pour une meilleure performance en fait opérationnelle.
Et est-ce que vous arrivez à faire ce transfert parfois entre, puisque vous êtes un univers d'ingénieurs mais que des ingénieurs Colas traditionnels qui sont plutôt dans le bâtiment, peu à peu parce que le numérique ils l'utilisent de plus en plus se retrouvent à être davantage dans la division digital solution.
Alors ce qu'on observe chez Colas, c'est plutôt un rapprochement et un meilleur en fait meilleure collaboration de dialogue entre l'informatique et puis les métiers. Ce qui est sûr, c'est que les métiers se emparent de plus en plus de ces sujets-là et on en a besoin. Et l'informatique est là pour supporter, accompagner et offrir les expertises. C'est là où on est important pour nous d'avoir les bons niveaux d'experts, des spécialités, des compétences.
Oui, et ça évidemment c'est vous êtes dans le cas de toutes les entreprises qui ont des architectures de plus en plus complexes. On voyait juste un petit point sur la techno, on dit une baisse en développeurs, moins 30%, une augmentation des besoins de la techno MySQL, parce que c'est aussi ça, le baromètre optimiste, ça nous permet parfois de regarder un petit signal faible sur un point très précis.
Tout à fait, donc augmentation sur la techno MySQL, c'est une techno, vous savez, qui permet de gérer, stocker la donnée, et de la donnée, il y en a de plus en plus, donc ce qui entraîne forcément une augmentation des professionnels pour analyser ces données, les sécuriser, les traiter. De la même manière, et c'est sujets qui sont un petit peu liés, une hausse aussi des prix, malgré effectivement la baisse de la demande, sur les spécialités API, interfaçage, intégration, on a une hausse de 12% sur le dernier trimestre sur ces métiers-là.
Aujourd'hui, dernier mot, c'est combien de postes ouverts chez Colas sur la partie digitale?
Alors, on a une petite dizaine en fait de postes sur Colas Digital Solutions, mais à l'international, on est là pour à la fois recruter des nouveaux talents, mais pas que, c'est aussi s'assurer que nos collaborateurs déjà en interne soient bien formés pour accompagner cette transformation.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venu nous parler de tout ça. Vanessa Ranaïvo Harrison, vous êtes DSI de Colas Digital Solutions, et puis Alix Mircham, directeur marketing d'Optimis. Merci d'avoir été avec
nous.
Optimis, notre partenaire sur ce baromètre, et Optimis, donc nouvel entrant dans la French Tech 120. Allez, pardon, on marque une courte pause et on va parler cybersécurité dans un instant avec notre invité suivant. Tiens, quelle est la maturité cyber des entreprises? On va en parler tout de suite.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Et on va parler de la maturité des entreprises en termes de cybersécurité, la maturité aussi de leur budget, de leurs investissements. Ça s'appelle le Cyber Benchmark Westom 2024. C'est un benchmark qui a été fait auprès de une centaine d'entreprises qui font plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Une analyse réalisée justement par les consultants de Wavestone qui ont permis de voir, un peu l'état de l'art en termes cyber dans les entreprises. Avec nous pour en parler, Jérôme Bilois, bonjour.
Bonjour.
Jérôme, qui est associé en cybersécurité et confiance numérique au sein du cabinet Wavestone, justement. Tiens, avant de rentrer plus en détail dans les chiffres, les bonnes surprises ou vos déceptions là, par rapport en regardant la photo générale de ce baromètre?
Alors, les bonnes surprises sont sur certains sujets de la cybersécurité, en particulier le cloud, où on voit qu'il y a eu des vrais investissements. On a eu une augmentation de 4% de la maturité sur ce sujet, où le cloud qui était très rapidement déployé, maintenant on voit que la cybersécurité augmente. L'autre bonne surprise, c'est sur la sécurité des données. Sécurité des données qui était un sujet un peu parent pauvre depuis longtemps. Et là, l'arrivée de l'intelligence l'intelligence artificielle, oui, démontre qu'il faut les maîtriser, ces données, qu'il faut aussi bien les sécuriser pour que certaines soient envoyées dans des systèmes d'IA, mais peut-être pas d'autres. Et donc, ça a augmenté l'attention sur ces sujets et on voit des investissements très concrets.
Oui, c'est souvent ce qu'on dit, mes données, mon poste, quand on voit, enfin, mon emploi. Et quelques déceptions, je sais pas, peut-être, on va en reparler, mais peut-être les budgets, peut-être qui pourraient être un peu plus élevés.
Voilà, alors, la déception cette année, c'est peut-être la dynamique de croissance qu'on avait observée ces années précédentes, à la fois sur les budgets et sur le niveau de maturité générale, qui est en stagnation. C'est-à-dire que si on regarde la maturité générale, on gagne 1%.
Oui, alors justement, rentrons un peu plus en détail. Donc, on le rappelle, une centaine d'entreprises, plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Alors, vous avez accès, évidemment, à pas mal de data, parce que ce sont des clients Wavestone, donc vous êtes vraiment dans les chiffres existants. Et donc, c'est ça, un niveau de maturité... qui aurait pu progresser plus vite.
Oui, je tiens vraiment à préciser la méthodologie. On n'est pas sur un sondage, c'est pas quelque chose qu'on a envoyé. C'est des missions d'évaluation de nos clients, donc plus de 100 entreprises de plus de 1 milliard d'euros, avec qui on a réalisé cette évaluation avec eux dans la durée, en parlant avec eux, en échangeant avec leurs équipes, en vérifiant un certain nombre de documents, et pour aussi les positionner elles-mêmes sur le marché. Ce qu'on en retire, c'est effectivement une maturité par rapport aux standards internationaux de cybersécurité de 53%. Donc on est à peine au-dessus de la moyenne et on a gagné 1% entre 2023 et 2024. Donc c'est un gain qui est quand même limité. Et qui est plus faible, la croissance est plus faible que les années précédentes.
Et pourquoi ? Parce qu'on sent, on se sent plus à l'abri parce qu'on est français, parce que quand on voit les attaques, ça n'arrête pas. On pourrait.
Alors les entreprises qui sont attaquées, elles, immédiatement, le budget il passe à 15% parce que d'un seul coup on se rend compte dans quel état on était et il y a des gros investissements. Ce qu'il faut noter, c'est quand même qu'il y a eu ces dernières années beaucoup d'investissements. Et dans les grandes entreprises dont on parle aujourd'hui, les budgets cyber commencent à être des budgets très significatifs et donc on atteint un moment où il commence à rentrer un peu dans le radar des budgets qu'il faut surveiller, qu'il va peut-être falloir limiter, qu'il va peut-être falloir réduire. Et c'est cette dynamique-là dans laquelle on est.
Et c'est ça justement, puisqu'on voit les budgets cyber qui présentent, alors là c'est dans votre étude, 6,6% du budget informatique. Bon, on dit qu'en général il faut que ce soit entre 5 et 11, 12, 15 quand c'est très fort. Et puis... quand on est à 5-6, c'est qu'il y a encore des efforts à faire.
Voilà, la fourchette, effectivement, usuelle est entre 5 et 10. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que sur l'échantillon, on a quand même beaucoup d'entreprises dedans. Ce que je disais, ceux qui sont touchés par des attaques immédiatement passent à 15, souvent. Les plus en avance sont à 8-9, quand même, parce qu'il y a des structures qui investissent très lourdement. Mais c'est vrai que la moyenne est à 6,6.
Ouais, ça veut dire qu'il y en a qui sont tout en bas.
On a des entreprises à 1 ou 2% encore.
Et est-ce que le côté IA peut permettre de dépenser, entre guillemets, un peu moins en utilisant davantage l'IA pour aller chercher des signaux faibles et tout ça de
t'attaque. C'est une attente, c'est aujourd'hui une promesse, c'est pas une réalité sur le terrain. Il y a clairement des apports qui peuvent être faits. On le voit sur des logiques de gestion documentaire, sur des logiques de gestion, par exemple, de la sécurité des données, sur des thèmes comme le DLP où on a énormément de mal à classifier les documents. Bah là, une IA avec un LLM est capable de comprendre le sens d'un document de manière assez automatisée, même si c'est pas parfait, ça permet d'avancer. Puisqu'on rêve tous, c'est le SOC automatisé, la tour de contrôle qui va détecter, surveiller et répondre en temps réel. Là, on en est loin. Et la priorité numéro un là-dessus, c'est plutôt pour les RSSI de sécuriser les intelligences artificielles des métiers. Oui. Et c'est là où, par contre, il y a de l'investissement.
Alors, on voit, vous l'avez dit tout à l'heure en début, donc la sécurité du cloud, c'est plus 5%, la sécurité des données, plus 4%. Et puis, il y a un domaine clé de la cyber qui reste en souffrance, c'est la sécurité des tiers. Voilà, on ne travaille jamais tout seul. Et là, on sait que, je me souviens au dernier RIAM, l'événement organisé par Cyber Campus notamment, c'était quand j'entendais les RSSI, ça faisait partie. Il y a des événements géopolitiques, mais plus que l'IA, c'était vraiment cette histoire de la sécurité des tiers qui était importante pour eux.
Aujourd'hui, dans une grande entreprise, la raison numéro un des incidents cyber, c'est les tiers.
Ouais.
Les entreprises avec lesquelles on est interconnecté, les entreprises qui vont gérer nos données, les entreprises qui vont nous envoyer du personnel. Et ça, c'est la source numéro un aujourd'hui des incidents. Et en fait, il y a une vraie problématique de passage à l'échelle. Parce que souvent, on connaît les 4-5 fournisseurs les plus sensibles, ils sont audités, etc. Mais on prend un groupe du CAC 40, il a 50 000, il a 100 000 fournisseurs parfois. Et donc, pour aller tous les vérifier, tous les classifier, se dire est-ce qu'ils sont importants ou pas, ça demande énormément de moyens. Qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à mettre sur la table, et je compare par rapport à des groupes anglo-saxons où certains ont fait ces efforts-là, et je pense que l'IA est aussi un domaine sur lequel il y aura un avantage d'utiliser l'IA sur cette gestion des tiers.
On voit aussi c'est des grands groupes qui ont été audités, mais il y a des plus petites structures, et là encore, bon, on le sait, c'est cette différence, hein, le côté PME, petite structure, est moins sécurisé, ça c'est toujours vrai.
Oui, là on a centré les chiffres majoritairement sur les groupes de plus de 1 milliard de CA. On a aussi l'analyse sur ceux de moins de 1 milliard. Et on voit encore aujourd'hui, si on regarde un chiffre très concret, quand on regarde les attaques utilisées par les cybercriminels et les ransomware, si on regarde leur maturité de résistance aujourd'hui, sur à peu près la moitié de notre échantillon de petites structures est extrêmement exposée au risque ransomware et sont des cibles faciles pour les attaquants. Donc on va vraiment avoir besoin d'un électrochoc. Et l'électrochoc doit être la directive NIS2, donc directive européenne qui va sur beaucoup de petites structures, on parle de plus de 15 000 entreprises, amener un niveau minimum de sécurité. La situation politique fait que...
Mais il faut clarifier, je crois qu'il faut encore clarifier un peu le périmètre, mais c'est ça, on nous entoure de...
Là, aujourd'hui, le périmètre, enfin, en tout cas, dans les échanges tels qu'ils étaient il y a encore quelques semaines, on était autour de 15 000 entreprises qui allaient devoir être conformes à cette réglementation.
Et puis, autre sujet important que vous avez repéré aussi dans ce baromètre, et on va en parler parce que vous allez rester avec nous dans un instant, c'est les JO hein, qui mettent à contribution toutes les entreprises, même si on n'est pas forcément un acteur concret dans le partenariat JO, on fait partie de la vitrine, hein, de la vitrine France.
Dès qu'on porte l'image de la France, on devient une cible potentielle, effectivement.
Très bien, mais merci Jérôme Millois. Donc on peut retrouver évidemment ce baromètre très intéressant. Il y a plein de chiffres, vraiment ça. Et puis ça permet vraiment de vous comparer et puis voilà, de voir un peu, de vous jauger par rapport aux autres. Ça s'appelle le Cyber Benchmark Wavestone 2024, à retrouver évidemment sur le site de Wavestone. Merci Jérôme Millois. Encore une fois, vous restez avec nous. On va tout de suite débriefer l'actu cyber et il y a beaucoup de choses à raconter. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, merci d'être avec nous sur BFM Business. On est reparti pour une demi-heure et on va parler de cyber. Alors, c'était beaucoup le sujet dans la première demi-heure. Ça va l'être encore dans celle-ci. Avec ce débrief de l'actu cyber, on va instaurer ce rendez-vous au cours de la saison prochaine avec des experts qui viendront régulièrement parler un peu de cette actualité. Aujourd'hui, elle est riche. Alors, évidemment, la cybersécurité dans les JO, on va reparler dans un instant. Tiens, on parlera aussi du blocage du site coco.gg, vous savez, par la justice française, parce qu'il y a des histoires de pédocriminalité. Mais justement, bloquer un site, c'est pas aussi évident. Et pourquoi celui-ci, on y est allé aussi rapidement? On reviendra aussi sur l'administration américaine qui, on sait que TikTok est dans le collimateur des États-Unis, Kaspersky aussi un peu. On en reparlera avec nos experts. Je vous les présente tout de suite. Nicolas Arpagian, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Donc, gros bonjour Nicolas, vice-président d'Edmind Partners.
Bonjour Frédéric.
À vos côtés, Benjamin Barrier, Chief Strategic Officer et cofondateur de Datadome. Bonjour.
Bonjour.
Benjamin, merci d'être avec nous. Datadome, c'est 200 personnes spécialisées évidemment sur la cybersécurité. Et Jérôme Billois qui nous a fait l'amitié de rester avec nous. Merci. Jérôme, rebonjour. Associé en cybersécurité, confiance numérique au sein du cabinet Wavestone. La cybersécurité durant les JO, l'impact que cela aura sur le leadership français sur tous ces sujets. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'articles qui sortent sur les JO. C'est vrai qu'on va être nous sommes déjà sur une vitrine au niveau mondial. Et là, les cyberattaquants, ils adorent ça parce que soit pour, entre guillemets, pour s'amuser, soit pour vraiment rentrer dans des opérations de déstabilisation, soit des opérations d'escroquerie, eh bien là, on est une cible toute trouvée, Nicolas.
Ah oui, alors en fait, la difficulté, ce sera surtout qu'il ne se passe rien de visible. Voilà. Là, je parle de tout ce qui va être agit-prop avec déstabilisation, le défaçage, la non-disponibilité d'équipement, d'infrastructure, qui est le prestataire historique, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'il est en charge des JO, donc il a une expérience dans ce domaine-là. Il n'empêche que le monde n'a jamais été aussi numérisé, aussi interconnecté et aussi, en tout cas, en termes de fracture, d'opposition. Oui. Voilà. Et puis la France a sa place dans cette géopolitique. Donc, effectivement, il aura besoin de son expérience passée pour faire face à ces éléments de sécurité.
Parce que là, il y a les enjeux géopolitiques, les enjeux. Voilà, il y a tous les enjeux, tout le même. On peut s'attendre. Enfin, ça va être quoi les attaques auxquelles on va être confronté? Alors, on espère qu'elles seront le moins visibles possible. Mais Benjamin Barrier.
C'est vrai que nous, nos clients, et on est concentrés parce qu'on s'attend et on redoute qu'il y ait en effet une forte augmentation des attaques.
Je vous interromps juste un instant, c'est ce qu'on disait avec Jérôme tout à l'heure dans la première partie de l'émission, qu'on soit directement partenaire des JO ou une entreprise lambda, peut-être en contact avec les JO de très très loin parce qu'on a fabriqué des podiums ou je ne sais quoi, mais sinon, oui, là, toute entreprise française est sous les feux des projecteurs, des attaquants en tout cas.
En effet, je pense que ce que tout le monde redoute, c'est que les attaquants partent du principe que toutes ces entreprises sont occupées ailleurs. opérationnellement, plus ou moins par les JO. Et donc, ils se disent que c'est un bon moment pour attaquer parce qu'ils ne seront pas fortement concentrés sur leur cybersécurité. Et je rejoins ce que disait Nicolas. En fait, on ne voit rien à l'heure actuelle, mais c'est normal. Nous, on fait beaucoup d'événements qui sont beaucoup moins importants en taille que les JO. Mais si vous allez braquer une banque, vous ne passez pas cagoulé devant la veille. Donc, en fait, c'est normal qu'on ne voit rien à l'heure actuelle. Et quand on fait ce genre d'événement, c'est une tactique très utilisée par les attaqueurs. Ils essaient de passer sous les radars. Nous, on détecte beaucoup de bots, c'est notre métier. On voit par exemple qu'avant une grosse attaque, ils envoient des êtres humains sur les sites web pour créer une empreinte numérique qu'ils transfèrent ensuite aux bots. Donc c'est normal qu'on voit rien.
Donc pour tracer un peu le chemin pour les bots, c'est ça?
Exactement. Ou alors pour créer une empreinte qui ait l'air légitime et que le bot puisse réutiliser derrière lorsqu'il lance l'attaque.
Donc là, donc ça va être une activité un peu inhabituel sur le site avec un peu plus de visites et tout d'un coup on se dit tiens là, est-ce que derrière on n'est pas en train de préparer d'autres...
Exactement. Et c'est un travail c'est chirurgical hein, en amont de cet événement, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller disséquer l'intégralité du trafic pour voir si on arrive à percevoir des choses un peu inhabituelles qui nous mettraient la puce à l'oreille sur les modalités.
Oui, et puis il faut lier ça à un événement, si c'est un de e-commerce qu'on n'ait pas lancé une promo, voilà.
Exactement.
Et, voilà, il faut vraiment distinguer tous ces événements. Jérôme, sur cette... S'être cyber durant les JO, voilà à quoi il faut faire attention. J'imagine que chez Wavestone, tout le monde est sur le pont aussi par rapport à vos clients.
Alors effectivement, on sera aussi d'astreinte, nous, pendant cette période-là, parce qu'effectivement, on s'attend à ce que ça bouge. Ce qu'il faut voir, c'est que ça peut bouger sous trois dimensions différentes. Une dimension d'attaque étatique vers les systèmes peut-être les plus sensibles, les fournisseurs les plus sensibles. Ceux-là sont suivis par l'ANSSI et par le comité d'organisation
des Jeux Olympiques. Oui, ça peut être les transports, la RATP, depuis longtemps.
Ou... Voilà, y a le cœur du cœur, vraiment, la conduite des épreuves, la réalisation des épreuves en tant que telles, et puis il y a ce qui permet que l'épreuve se fasse, l'électricité, les télécoms, les médias, les transports, qui vont permettre aux gens de venir. Tous ces acteurs-là, ils ont été identifiés depuis longtemps, il y a eu beaucoup d'investissements, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, parce qu'il peut toujours se passer quelque chose quand on voit la force des attaquants qu'on peut avoir en face. Maintenant, on est à moins de 30 jours, qu'est-ce qui reste à faire? Et je pense que si justement il y a
des
auditeurs,
il y a eu des sites de l'administration qui ont été bloqués il y a quelques jours.
Il y a des alertes à plusieurs niveaux. Il y a des alertes, on va dire, d'actions criminelles, faux sites web, vente de faux billets, etc. Et ça va pulluler. Oui, c'est sûr. Ça va toucher le grand public.
On l'a sur
Roland-Garros,
on l'a sur les grandes compétitions.
Mais une forte dimension. Il y a aussi un risque criminel de ransomware avec des groupes qui peuvent se dire ah bah c'est pendant les JO, si je bloque, ils vont vouloir payer très très vite pour débloquer. Mais peut-être ce qu'il y aura le plus, c'est des actions d'activistes qui vont vouloir nuire à l'image de l'événement sous des dimensions extrêmement variées, des causes extrêmement variées et peut-être souvent même sous-faunées. C'est-à-dire des groupes qui vont pouvoir se faire passer pour un tel ou un tel, qui vont bloquer un site web en déni de service, qui vont modifier des pages vitrines pour faire passer des messages, qui parfois vont peut-être même dire « j'ai volé des informations, en voilà un extrait ». Peut-être que ce vol sera complètement faux, mais il y aura très certainement des attaques pour déstabiliser l'opinion, pour gâcher la fête, finalement. Et donc, en tant qu'entreprise aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment vérifier que vous avez bien fait un audit sur vos différents sites web. C'est vraiment la dernière limite pour y aller. Vérifier que vous avez une protection contre les dénis de service, c'est ce qu'on disait, ou au moins que vous savez qui appeler votre opérateur pour se protéger. Et puis, avoir des gens sur le pont et faire un petit exercice de crise encore, passer une demi-journée. Vous vous dites, mais si ça se passe mal pendant les JO, qu'est-ce que je fais?
Voilà. Surtout qu'on est une période estivale qui, d'ailleurs, avec des gens qui peuvent être en vacances, en tout cas pour certaines entreprises, donc un dispositif qui n'est pas favorable à la réactivité.
Un contexte politique français aussi.
Qui apporte sa complexité. Et puis, il faut garder à l'idée que c'est exactement ce que nous évoquons là, c'est-à-dire la combinaison des attaques techniques sur des infrastructures, des équipements, des disponibilités de systèmes, mais également des attaques informationnelles, avec la mise en cause, avec des stigmatisations, avec justement une pollution du débat général. Et on a bien ces deux dimensions de la cyber, c'est-à-dire à la fois les contenus, les tuyaux, les équipements, les infrastructures. Et ce qui fait que ça démultiplie les fronts possibles. Et surtout que ce sont d'habitude des actions qui ne sont pas tellement de promotion, de valorisation, mais d'habitude plutôt de manière à porter atteinte à la crédibilité, à la réputation d'un adversaire, d'un opposant. Et donc c'est vrai qu'on est d'abord dans une perturbation, d'en créer quelque chose qui a vocation à être offensif, malveillant et et moins dans la surpromotion d'un point de vue qui serait celui de l'initiateur.
Benjamin, comment on fait alors pour essayer de se rassurer au moins, de vivre un peu plus serein, même si on va être tout le monde sous tension un peu, enfin dans le domaine de la cyber en tout cas, au cours de ces prochaines semaines?
Je crois que c'est la préparation, la clé. Mm-hmm. Parce qu'en fait, je veux dire, des attaques, il risque d'en avoir. Je pense il faut avoir confiance dans les systèmes qui sont mis en place. Nous, on sera évidemment énormément sur le pont. Mais c'est dans la préparation. On a sorti une offre qui est vraiment dédiée aux Jeux Olympiques il y a quelques mois de ça, pour se préparer, pour préparer nos clients. Et dans cette offre, en amont des Jeux, il y a tout un travail préparatoire de vérification que tous les éléments de sécurité sont bien en place, bien paramétrés, etc. Et nos clients nous demandent, nous aussi, un travail de découverte. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des surfaces exposées au sein de mon infrastructure dont je n'ai pas connaissance? Est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de mon organisation qui a mis en place une API un jour dont je n'ai pas connaissance et qu'il faut absolument que je protège? Oui. Donc là, on est là-dedans.
En gros, ce qui est vertueux pour la robustesse cyber de l'avenir. Pour
l'héritage des JO, je pense qu'il y aura un héritage cyber dans pas mal de structures.
C'est justement ça. Parce que, je sais plus qui m'avait envoyé de la cybersécurité durant les JO et l'impact que cela aura sur le leadership français sur ces sujets.
Oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas d'attaque et pas d'incident pendant les JO. Et que justement, on puisse. Que toutes ces actions qui ont été faites en préalable servent à cet héritage. Parce que tout ce qui est fait en préalable, là, c'est pas perdu. Mm-hmm. Voilà. J'entends parfois dire, on va être dans le syndrome du bug de l'an 2000, tout le monde agite des drapeaux, etc. Et en fait, il va rien se passer. Eh bien, tant mieux s'il se passe rien. Oui. Parce qu'au moins, on aura vécu des bons Jeux Olympiques et Paralympiques. Et de l'autre côté, beaucoup de monde auront quand même compris les enjeux cyber, ce qui peut se passer, on a sensibilisé, on a permis d'agir, et pour moi ça fera partie d'un héritage aussi de ces
Jeux. Des protocoles auront été mis en place, des interlocuteurs ont été identifiés, des actifs auront été localisés, des dispositifs de remédiation auront été envisagés, des duplications de données auront été élaborées. Bref, on est quand même dans ce qui est la base d'une politique de cybersécurité, et là, le fait d'avoir cette échéance, c'est-à-dire qu'évidemment, ils vont le faire avant les épreuves, effectivement, ça a fixé un tempo.
C'est pas juste de dire voilà en 2035.
Exactement, parce que on connaît les réglementations, l'entrée en vigueur de dispositifs réglementaires, on connaît, c'est quelque chose qui est habituel dans cet univers. Là, il y a une question de proximité de l'événement qui donne ce cadencement qui, il faut le reconnaître, là, est un élément vertueux.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, voilà, on le disait tout à l'heure, les activistes, on est dans un contexte politique particulier en France, un contexte géopolitique encore plus particulier, et puis après, il y a tous les ceux qui vont profiter aussi, Benjamin, du chaos, non, on n'espère pas de ce chaos, mais de cette ambiance générale, qu'on sait qu'il y a de l'ingénierie sociale aussi, donc on est un peu moins vigilant, c'est l'été, et puis du coup, on se découvre un peu.
Exactement, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument rester concentré. Et on parlait du paysage politique. Moi, je pense qu'en effet, il faut vraiment rester concentré. Là, c'est pas la période à se déconcentrer. Il faut rester sur. On est en train de se préparer. Il faut finir de se préparer. Mais c'est certain qu'on va voir des gens qui vont essayer de tirer parti de cette cacophonie. Je sais pas, mais ce qui pense être de la cacophonie, ouais, certain.
Donc soyons vigilants. D'ailleurs, tiens, on a fait un hors série avec le campus cyber là où on recevait l'un des patrons d'Atos, l'un des patrons de Paris 2024. Donc je vous conseille, vous devez le retrouver certainement en replay sur notre site. Autre sujet, tiens, alors ça peut paraître un petit sujet un peu anecdotique, c'est le blocage du site coco.gg par la justice française et Eurojust. C'était un site qui servait de guet-apens pour les homophobes. Voilà, il y a pas mal d'histoires un peu sordides autour de ce site. Et on va s'intéresser surtout au fait que on bloque ce site, Nicolas.
Alors, c'est un site qui existe depuis une vingtaine d'années, avec d'ailleurs à peu près la même ergonomie, c'est-à-dire que la mise en page n'a pas tellement changé. Ce qui a juste changé, c'est son suffixe, puisque effectivement, en fonction de sa localisation, donc il a été un temps coco.fr, il est maintenant GG, enfin il était GG en raison de sa localisation à Guernesey, mais simplement l'ergonomie que vous présentez derrière vous, je dis pas ringarde, mais qui est extrêmement, en tout cas, sommaire. Pourquoi ? Parce que personne n'allait sur cette plateforme de manière désintéressée, spontanée, et innocent dans le sens où effectivement elle
savait ce qu'il allait chercher.
Pourquoi? Parce qu'il a 20 ans d'ancienneté, 20 ans d'implication. Le parquet de Paris, la section J3, a documenté plus de 20 000 mentions dans des dossiers judiciaires depuis 20 ans. C'est-à-dire que vous avez évoqué la pédocriminalité, mais des viols, des organisations, des actions homophobes, des escroqueries. On a le panel de la délinquance et de la criminalité dans cette.
Et pourquoi c'était aussi difficile de le fermer? Alors, Guernesey, évidemment, voilà.
La coopération policière judiciaire. Là, il y a a eu un alignement de planètes. C'est-à-dire que je pense que ça a été vraiment la violence de trop, le fait de dire maintenant il faut obtenir cette coopération. Vous l'avez dit, ça s'est fait avec Eurojust. La personne, le gestionnaire, a été localisé en Bulgarie. Il s'avère que d'ailleurs on retrouve une espèce de nébuleuse de sociétés, puisque c'est à la fois du numérique, mais avec quand même des emprises physiques, c'est-à-dire des sociétés commerciales avec des prête-noms, des personnes qui étaient dans son écosystème. Et donc ça, effectivement, maintenant, je pense que les dernières actions ont suscité la mobilisation et de dire maintenant, voilà. Et ce qui est assez vertueux dans cette démarche-là, c'est de dire, voilà, c'est faisable. Le dépôt de plainte, c'est pas inutile. Simplement, évidemment, les États européens respectent l'état de droit et donc respectent le code de procédure pénale pour la France ou le droit, le droit, effectivement. Donc il y a un formalisme par rapport à des acteurs qui, eux, vont être très mobiles, fluides, furtifs dans leurs actions.
Et c'est ça.
Donc,
ils ont une plainte en France, ils vont,
voilà. Donc là, il est évident que d'autres sites vont chercher à se substituer, à capter l'audience et le service rendu, en quelque sorte, par Coco.gg. Mais c'est quand même un point à noter de la part du parquet de Paris, puisque la France est à l'initiative, même s'il y a une coopération européenne. C'est quand même c'est une bonne nouvelle dans le sens où, voilà, il y a l'impunité, c'est une démonstration que l'impunité n'a pas vocation à durer éternellement.
Jérôme, c'est ce qu'on voit de plus en plus. On voit des arrestations de hackers. Alors évidemment, parfois c'est des hydres. On en arrête deux têtes et puis ça repousse déjà de l'autre côté. Mais enfin, on sent quand même que cette action que l'on dénonçait tous autour de ce plateau depuis pas mal d'années en disant on parle souvent des attaques, on n'entend pas beaucoup. Alors parfois c'était discrètement, il y en avait une ou deux. Là maintenant, on les médiatise un peu plus. Mais on sent quand même que on est monté d'un cran aussi dans la phase répressive.
Clairement, dans ce domaine cyber, il y a vraiment une amélioration très nette de la manière dont les investigations peuvent se faire, dont les différentes forces de police des différents pays peuvent aussi agir. C'est toujours compliqué côté Est. Il y avait eu des avancées, mais avec le conflit Ukraine-Russie, il y a quand même eu un certain nombre de freins. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que le niveau de maturité, le niveau de personnes impliquées, le niveau de compétences aussi a largement augmenté, que ce soit côté police, gendarmerie, parquet. Il n'y a jamais assez de personnes et je pense qu'encore au niveau du parquet, il y a encore des moyens supplémentaires à avoir. Mais on voit que ça progresse et on voit qu'on est capable d'aller encore plus en profondeur. Parce que sur Coco.gg, ce n'est pas juste un blocage comme on en voit parfois sur des sites de piratage de contenu, etc.
Redémarrer.
On tourne en une demi-heure avec quelques moyens techniques. C'est vraiment un démantèlement en profondeur qui démantèle la plateforme, qui empêche l'utilisation des noms de domaine et qui surtout va jusqu'à l'interpellation du propriétaire du site. Et on sait que pour qu'on n'ait pas le phénomène de l'hydre qui était cité il y a quelques minutes, il faut trouver les gens. Parce que même si on est dans le cyber, c'est des sites web, etc., etc., on arrive à couper ça quand on a la personne qui est derrière le site. Et c'est vraiment l'enjeu d'arriver à lier ce monde numérique et ce monde physique pour essayer de faire le plus mal possible à ce genre de site ou aux cybercriminels qui ont des activités aussi néfastes.
Benjamin, sur ces sujets-là.
Oui, j'écoutais Anthony Bem, l'avocat qui est passé sur votre antenne hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'était intéressant la façon dont il l'explique. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué d'aller démanteler un site tel que celui-là. Et dans une beaucoup moindre mesure, c'est un truc qu'on rencontre nous aussi beaucoup. C'est-à-dire que l'attaque d'où elle vient, techniquement, il y a tellement d'options pour se cacher que c'est très compliqué de remonter justement jusqu'à la personne, comme vous le disiez.
Ça veut dire aussi, Nicolas le disait à l'instant, coopération plus forte aussi. Parce que ça, on sait que pendant des années, déjà en France, je me souviens de l'ancien directeur général de l'ANSSI, Guillaume Poupard, qui demandait à tout le monde d'essayer de collaborer, vous, les banques ensemble, les différents secteurs. On voyait que c'était compliqué, parce que il y a encore des histoires de concurrence, de compétition, ce qu'on peut comprendre. Mais donc, déjà, au sein du territoire, c'était compliqué, mais alors, au niveau européen, on n'en parle même pas. Et là, on sent quand même que. Il y a des structures policières.
C'est Eurojust, puisque ce sont les magistrats qui sont intervenus, simplement avec la coopération des services de police nationaux. C'est vrai que toutes les opérations, elles ne peuvent s'envisager. Alors, on a quelques cas sur un seul territoire où l'attaquant se situe sur le territoire de ses victimes. Bon, on peut.
C'est rare.
Voilà, c'est ça. La chance fait partie du talent pour les forces de sécurité intérieure, quelquefois. Simplement, c'est vrai. Et c'est vrai que la géopolitique a fait son impact. L'Ukraine a décidé de collaborer de manière extrêmement étroite avec les autorités judiciaires européennes. Ça a permis de documenter des actions de ces dernières années. Déjà, pour comprendre et avoir une lecture de qui est avec qui, des forces en présence qui, jusqu'à présent, étaient bénéficiaires précisément de la passivité d'un certain nombre d'autorités qui ne répondaient pas aux commissions rogatoires, qui laissaient s'encalminer un certain nombre de procédures et donc, de fait, contribuaient à la protection. À la protection. Là, c'est vrai qu'on a, cette dimension-là. Il n'empêche que l'offre et la demande étant ce qu'elles sont, il est évident qu'il va falloir désormais surveiller quelles sont les plateformes, quelles sont les enceintes qui vont servir de destination, de substitution à la fermeture de coco.gg, mais il n'empêche que voilà, on a quand même documenté avec des interpellations, avec des saisies financières, avec des mises en cause judiciaires, et ça permet quand même d'incarner le régime de responsabilité.
Ok, ben voilà pour ce sujet-là. Voilà, enfin, on voit quand même que les choses avancent, et puis je pense qu'il y a aussi une pression. Alors peut-être pas dans ce cas-là, mais dans d'autres domaines, il peut y avoir une pression aussi de la part des assurances, hein, qui sont de plus en plus présentes, pressantes aussi autour de cette cybersécurité. Autre sujet, je trouve intéressant d'en parler. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'administration américaine contre TikTok. Voilà, origine chinoise, qui, alors, entre guillemets, abrutit les enfants, c'était ce qu'on disait, mais aussi qui récupérerait tout un tas de données, qui l'enverrait en Chine pour analyser tout ça. Donc voilà, donc, il y a toujours un process en cours en Chine. On a même, je crois que c'est le patron de l'Olympique de Marseille, qui est un Franck McCourt, qui s'est dit, mais moi, je rachèterais bien TikTok. Enfin, voilà, c'est une opération de com', mais voilà, enfin, tout ça n'est pas très clair. Et puis là, c'est l'administration américaine qui sanctionne des responsables de Kaspersky et interdit l'utilisation de leur logiciel antivirus sur le territoire US. Alors, c'est pas la première fois que Kaspersky est un peu dans le collimateur des autorités américaines. Hein. La nationalité de son fondateur russe, évidemment, gêne. Mais là, enfin, à quoi on assiste, Jérôme Bilois ?
À la suite d'un mouvement qui était entamé donc, depuis 2017, avec les premières interdictions d'utilisation de cet outil dans les administrations américaines, on avait senti la pression aussi monter à partir du début de l'année. Il y avait des bruits en avril que quelque chose allait se passer, etc. Et là, voilà, l'administration américaine tape du poing sur la table, empêche la vente. À partir de septembre, va empêcher les mises à jour.
Sanctionne des responsables, hein. C'est pas juste Kaspersky dans son nom.
Voilà. Ils ont et donc ça sanctionne des responsables. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le fondateur, le dirigeant Eugène Kaspersky, oui, n'est pas sanctionné, lui. Et lui se défendait toujours de toute proximité avec l'État. Kaspersky aussi fait un mouvement important en allant en Suisse héberger un certain nombre de ses systèmes pour essayer de rassurer ses clients. Là, c'est vrai que le coup est dur pour eux, évidemment, aussi pour ceux qui
utilisaient. Comme une marque réputée hein, dans le monde.
Et avec un haut niveau de technicité. En fait, c'est ça aujourd'hui. On sait que dans les pouvoirs un peu géostratégiques de la cyber, il y a plusieurs grands blocs. Il y a quand même beaucoup de produits de sécurité qui nous viennent plutôt du bloc américain, du bloc israélien. Et on a Trend Micro qui est japonais, mais on avait aussi Kaspersky qui avait une autre fenêtre de vue et qui a révélé parfois des cyberattaques de manière intéressante et qui pouvait peut-être un peu gêner aussi aux côtés des États-Unis. Et donc ce qui est vraiment dommage à mon sens, c'est il faudrait pas que cette expertise finalement qui était pointue et qui était voilà avérée pour des révélations intéressantes,
c'est vrai que
voilà, ne se dissolve, ne se perd, ne s'explose.
En tout cas, ça illustre bien cette porosité des mondes propre à la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on a une entreprise commercial qui est détenu par des capitaux privés, mais on voit bien que dans la géopolitique, le lien avec les autorités, avec la capacité des intérêts de puissance fait qu'on se positionne pas uniquement sur des parts de marché, mais on se positionne sur une expertise qui peut devenir problématique selon, en tout cas,
parce qu'on le rappelle, hein, il l'avait sorti
des administrations fédérales, c'est-à-dire que là, effectivement, et là la particularité, alors là en plus, il y a une cote sinon mal taillée, en tout cas particulière, puisqu'on dit voilà, si vous êtes détenteur d'une, si vous êtes client de Kaspersky aujourd'hui, n'êtes pas fautif. Par contre, on va interdire la commercialisation supplémentaire et les mises à jour. Et tout un chacun sait qu'une solution de sécurité qui n'est pas alimentée par des mises à jour, perd évidemment de sa pertinence. Et donc, on voit qu'il y a cette volonté manifestement de mettre une échéance, puisque là, ça va se calculer en semaines. Et donc, on voit qu'on est bien à la convergence de la politique, de la géopolitique, du business et de la technologie. C'est vraiment particulier à cet univers de la cyber où la stricte conduite des activités commercial ne suffit pas à s'exonérer en disant voilà, je ne suis qu'une entreprise. Et donc là, on a cet affrontement. Et cet affrontement, la question après, c'est, alors on l'avait vu avec TikTok où l'administration américaine avait évolué sur l'actionnariat d'un éventuel reprise. Si au mois de novembre, Donald Trump est réélu, est-ce que ça va changer à nouveau la donne? On voit que l'entreprise, elle va être ballottée dans cette condition, bien au-delà de ses activités commerciales, mais par une politique qui...
Il y avait aussi le cas Huawei, hein, qui aussi mettait en avant cette situation-là. Et on voit que les États-Unis aujourd'hui investissent très lourdement dans ce qu'ils appellent la tech diplomatie. Anthony Blinken a d'ailleurs une des plus grandes conférences de cybersécurité à San Francisco il y a quelques semaines, est venu exposer la vision américaine de la tech diplomatie avec justement l'idée d'agir sur ces leviers-là, des leviers que les États-Unis jugent bons ou mauvais. On peut en discuter longtemps, mais voilà, il y a une vraie volonté à l'échelle du gouvernement, il y a une vraie compréhension de l'enjeu du numérique sur finalement la souveraineté des nations, sur le fonctionnement des États, et on voit que là, les leviers qui sont actionnés, c'est plus des mesurettes à gauche ou à droite, c'est une vraie stratégie.
Benjamin, quand vous voyez ça, vous, notamment en tant qu'éditeur, hein, Datadome, voilà, vous ne serez pas interdit aux États-Unis, mais enfin, on ne sait jamais, un jour, s'ils décident de fermer tout au non-américain.
On fait tout pour ne pas l'être.
Oui.
En revanche, c'est vrai que commercialement, ça peut être compliqué, c'est vrai. Moi, je pense que ça illustre une tendance de fond quand même dans la cybersécurité, c'est que l'heure est à la transparence, en fait. Hein. On ne peut plus rassurer. Je pense qu'après une actualité comme ça, je ne sais pas comment on peut rassurer des clients. C'est ça qui est compliqué. Je crois que nous, on le voit, nos clients, ce qu'ils attendent, c'est vraiment de la transparence. Ils ont besoin de comprendre qui on est, comment on travaille, où est-ce que les données sont localisées. Et nous, on opère dans 75 pays. Pour chacun des pays, on a une solution qui leur permet d'être assurés que les données seront traitées localement, entre guillemets. Mmh. Donc, c'est compliqué. C'est vrai que
le problème, c'est la maintenir la transparence en temps réel.
Parce que l'explication donnée par l'autorité américaine, c'est de dire le corpus juridique russe permettrait aux autorités de demander à Kaspersky d'exfiltrer des données. Alors, il s'avère que ça pourrait faire écho à la loi FISA américaine, qui est, sinon cousine, en tout cas, assez proche dans ses fonctionnalités. Et donc, en tout cas, c'est bien le corpus juridique russe, en l'espèce, qui est pointé du doigt par les autorités états-uniennes, disant, nous pensons que vous pouvez obtenir des informations de manière, à l'insu des utilisateurs.
Et ça met sur la table un sujet clé, c'est la transparence et la confiance dans le numérique. Et en fait, comment est-ce qu'on arrive à garantir cette transparence? Parce qu'on peut la garantir à un instant T. On va faire un audit de tout le code source, de tous les systèmes. Mais les systèmes, ils vont tellement vite. Et les signatures, on disait, il faut mettre à jour, etc. Il faut mettre à jour les logiciels. Et donc, du jour au lendemain, tout peut changer. Et en fait, la capacité qu'on a aujourd'hui en tant qu'expert cyber à mettre un coup de tampon sur un produit, c'est quelque chose qui est très long. C'est des analyses. Donc, quand on le fait, c'est 10, 20, 30, 40, 50 jours de travail. Et une mise à jour arrive, il faut recommencer. Et donc, tant qu'on n'aura pas réussi à inventer, et c'est un des défis du futur dans la cyber, des mécanismes qui permettent de garantir confiance et transparence quasiment en temps réel, on va rester dans ces débats-là.
Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Nicolas Arpagian, vice-président Headmind Partners, Benjamin Barrier, Chief Strategic Officer et cofondateur de Datadome, et Jérôme Billois, associé en cybersécurité, confiance numérique au sein du cabinet Wavestone. Wavestone, c'est le cyber benchmark, hein, on en a parlé tout à l'heure. Chez Nicolas, c'est le Mindhead Cyber, voilà, de un LLM dédié à la cyber. Et chez vous, l'actualité, Benjamin, je ne vous ai même pas posé la question.
Oh, c'est qu'on a beaucoup travaillé, on a levé 38 millions d'euros il y a un an.
Voilà.
On a beaucoup travaillé pour notre leadership et on est en train de construire une plateforme avec plein de nouveaux produits.
Voilà, et déjà 200 personnes sur l'occasion de venir nous en parler. Merci à tous les trois, merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et justement, on se rapprochera des JO, on verra un peu tout ce qui se passe à ce niveau-là. Excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.